Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertille Bourdon et Luc Alazo, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Thibaut Nassimbem. Quatrième temps de notre série consacrée à l'articulation entre pouvoir politique et religion. Après avoir évoqué lundi le poids des évangéliques dans l'électorat de Donald Trump, le nationalisme bouddhiste en Birmanie et au Sri Lanka, et puis l'hindouisme autoritaire de Narendra Modi du côté de l'Inde, tournons-nous aujourd'hui vers le Moyen-Orient et vers une forme d'islam politique assez peu étudiée, le schisme politique. De Bagdad à Bahreïn, le schisme politique, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
L'Irak est devenu ouvert à tous et on ne peut plus empêcher quiconque d'intervenir. Mais il faut que l'Irak recouvre sa souveraineté dans sa prise de décision. Il faut qu'il s'occupe de ses affaires.
Muqtada Sadr est un symbole de la résistance. Il est célèbre pour avoir résisté contre les Américains et contre l'État islamique en Irak. Avec lui, l'Irak appartient aux Irakiens.
Muqtada Sadr change en fonction des circonstances du pays. D'abord, il y avait l'occupation américaine, alors il a fondé l'armée du Mahdi. Ensuite, il y a eu Daesh, alors ses troupes sont devenues les brigades de la paix. Puis l'Irak avait besoin d'un leader, alors il s'est engagé en politique.
Ils utilisent leur pouvoir, leurs armes, leurs bâtons et leurs couteaux. Ils ne nous laissent pas parler librement. Celui qui s'exprimera contre Muqtada Sadr, contre les sadristes ou contre Mohamed Alaoui, ils le frapperont.
Muqtada al-Sadr, fils d'un ayatollah, l'une des figures centrales du paysage politique irakien contemporain et l'un des principaux représentants du schisme politique en Irak aujourd'hui. De la nébuleuse des partis chiites irakiens au Hezbollah libanais, en passant par les mouvements d'opposition au Bahreïn, le schisme politique est un acteur essentiel au Moyen-Orient. Né en Irak dans les années 50, il s'est par la suite développé du côté de l'Iran, où il est parvenu au pouvoir. Pourtant, l'état des mollahs n'est pas forcément le modèle de toutes ces formations politiques. Et d'ailleurs, toutes ne reconnaissent pas, en effet, la wilayat el-faqih, cette doctrine qui vise à donner le pouvoir au clergé. Pour de nombreux mouvements confessionnels, l'objectif n'est en réalité pas tant de créer de nouvelles républiques islamiques au Moyen-Orient que de défendre des intérêts, et en l'occurrence l'intérêt des communautés chiites dans ces pays concernés. Mais en Irak, les récentes manifestations survenues opposant précisément une population chiite à un pouvoir chiite ont bien montré les limites de ce modèle, comme en Iran où la contestation s'est durcie cet hiver contre le pouvoir religieux, et encore au Liban où le Hezbollah n'est pas épargné par ce mouvement actuel de protestation. Alors le schisme politique serait-il en crise ? D'ailleurs, existe-t-il seulement un schisme politique et en quoi se distinguerait-il de l'islam politique sunnite ? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité d'abord Laurence Louer. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur associé aux séries de Sciences Po, auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur le thème qu'on va évoquer ce matin, notamment sunnite et chiite, histoire politique d'une discorde. On avait d'ailleurs eu l'occasion d'en parler ensemble il y a quelques temps à ce micro. C'était paru au Seuil. À nos côtés également, Robin Beaumont. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheur à Nord, doctorant à l'EHESS, et vous avez coordonné ce numéro de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, précisément consacré au schisme politique. Avant de définir ce schisme politique, une question un peu d'actualité, parce qu'on voit ça et là des mouvements de contestation, précisément contre des pouvoirs chiites, chiites au sens où, en tout cas, dominés par des mouvements politiques chiites. Est-ce que ça veut dire que le schisme politique aujourd'hui est en crise, ou au fond, il ne s'agit que de crise sociale et économique et qu'il n'y a pas de crise plus profonde que cela, finalement, Laurence Louer?
Je pense que parler de crise serait peut-être un peu exagéré. Je crois que, en fait, certains mouvements islamistes chiites qui sont arrivés au pouvoir ou qui sont dans une position dominante, comme c'est le cas au Liban, eh bien, subissent ce que subissent tous les dirigeants politiques, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, la contestation face à leur incapacité à gérer de manière satisfaisante les problèmes du quotidien.
Robin Beaumont, est-ce qu'on peut essayer de poser une définition du schisme politique ? Alors sur le plan purement religieux, le terme chiite, ça désigne cette mouvance légitimiste qui défend le leadership d'Ali, gendre et fils spirituel de Mahomet, alors que les sunnites, eux, avaient choisi Abou Bakr, le compagnon de route du prophète. Mais sur le plan politique, comment définir le schisme politique ?
Alors le schisme politique ou les schismes politiques, c'est tout simplement des idéologies ou des mouvements politiques qui sont, si vous voulez, le pendant chiite des islamismes ou des islams politiques tels qu'on les connaît. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le chiisme politique ne s'est pas construit en opposition à un islam politique sunnite, par exemple. Mm-hmm. En réalité, ils viennent tous de la même matrice. Hein, c'est-à-dire que le premier parti politique islamiste chiite qui naît en Irak, le parti de Darwa, qui naît à la fin des années 50 en Irak, il est très fortement influencé. Ses principaux théoriciens sont très fortement influencés par la production des islamistes sunnites, de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans en Égypte, par Saïd Qutb. On sait que Khomeini lui-même avait lu Saïd Qutb. Certains anciens membres de Frères musulmans ou affiliés à des Frères musulmans font partie du parti Ad-Darwa également. Donc il y a une même matrice socio-historique à l'origine des islams politiques qu'on pourrait appeler sunnites, c'est-à-dire l'islam politique tel qu'on les connaît de manière générale, et des islams politiques chiites.
Il n'empêche, Laurence Louère, que la conception de l'auto-religieuse chez les chiites et les sunnites n'est pas la même. Du côté des sunnites, l'imam peut être désigné, voire même s'autoproclamer, on l'a vu, et donc son autorité est liée à sa formation, à sa connaissance des textes, alors que chez les chiites, l'ayatollah, il revendique une filiation directe avec le prophète, et donc son autorité vient précisément de cette filiation. On imagine que ça doit engendrer des conceptions différentes de l'organisation politique et de l'organisation étatique qu'il y a derrière.
Alors, c'est vrai qu'une des spécificités de l'islam politique chiite, c'est que sur le plan idéologique et souvent sur le plan pratique, il est complètement obsédé par l'idée de l'institutionnalisation du pouvoir politique des clercs. L'islamisme en général se caractérise par la volonté de penser ce qu'est un État islamique et de mettre en œuvre, sur le plan pratique concret, l'État islamique. Et au fond, la version chiite de l'islam politique, c'est-à-dire pour que l'État soit véritablement islamique, il doit être dirigé par un clerc de haut rang, ce qu'on appelle un marja ou un grand ayatollah, ça c'est le titre honorifique qu'on donne aux marjas, qui sont les plus hautes autorités religieuses dans l'islam chiite. Et c'est précisément cette fameuse doctrine de la wilayat al-faqih, où le gouvernement par le savant religieux, qui a été élaboré par Khomeini dans les années 1970, et qui nous dit, voilà, au fond, l'islamité de l'État réside dans le fait que cet État est dirigé par un clerc de haut rang.
Mais est-ce que tous les mouvements chiites au Moyen-Orient ont pour but précisément de mettre en place cette forme d'État et donc s'inscrivent dans cette fameuse doctrine que vous venez de nous rappeler, la wilayat al-faqih ?
Alors pas du tout. En fait, la wilayat al-faqih, elle a vraiment eu le vent en poupe dans les années 1980, après la révolution islamique en Iran, où il y avait une espèce de consensus au sein de la plupart des mouvements islamistes chiites pour dire que l'objectif, c'était précisément de mettre en œuvre cette forme particulière d'État islamique partout où c'était possible, à Bahreïn, Arabie Saoudite, Irak, Liban, etc. Aujourd'hui, c'est une doctrine qui a, à mon avis, une fonction symbolique. C'est-à-dire dire qu'on est pour la wilayat al-faqih, c'est dire, au grosso modo, on soutient l'Iran. Et on soutient l'autorité religieuse et politique de l'ayatollah Khamenei, qui est le guide de la République islamique. Même les mouvements les plus pro-iraniens, comme le Hezbollah libanais, ou comme les divers mouvements qui s'appellent Hezbollah dans d'autres pays.
Ne défendent pas l'idée d'une transformation de l'État.
Ils disent la wilayat al-faqih, c'est très très bien, mais que pour les Iraniens. Ouais. Chez nous, c'est pas possible. Au Liban, il y a trop cette diversité religieuse. En Arabie Saoudite, c'est pas possible parce qu'on est minoritaire. Donc, vouloir mettre ça en œuvre, ce serait créer la guerre. Donc, en fait, du coup, ces mouvements sont essentiellement aujourd'hui des mouvements communautaires qui défendent les intérêts des chiites en tant que communauté dans les contextes nationaux dans lesquels ils vivent.
C'est un idéal politique, mais que tout le monde ne vise pas en réalité. Robin Beaumont.
Oui, alors cette utilisation de la wilayat al-faqih, du modèle idéologique iranien comme d'un mantra, mais derrière lequel en fait on met assez peu de substance, on le retrouve aussi en Irak. C'est-à-dire que vous quand vous rencontrez sur le terrain des acteurs politiques chiites, des miliciens chiites en Irak, notamment dans le sud de l'Irak, J'ai eu des entretiens avec pas mal de responsables de l'organisation Badr, qui est un parti politique qui est réputé extrêmement proche de l'Iran. Et quand on aborde cette question idéologique, parce qu'à un moment de la conversation, on me parle de Ouled El-Fakhri, on dit « Ok, qu'est-ce que vous entendez exactement par Ouled El-Fakhri? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'Irak? Est-ce qu'il va falloir que l'Iran annexe l'Irak ?» Et en fait, ils se sont assez déroutés, parce qu'en fait, ce mot est utilisé comme ce que d'autres, dans d'autres contextes, d'autres sociologues ont pu appeler un signifiant vide. C'est-à-dire qu'on l'utilise parce qu'il a une force, il peut avoir une force idéologique rassembleuse, mais en réalité, ce mot a complètement épuisé son contenu idéologique originel.
Avant justement de se pencher précisément sur l'Irak, parce que c'est vrai que c'est un cas particulièrement intéressant, en particulier compte tenu de l'actualité du moment. Laurence Louer, pour qu'on comprenne bien les choses, tout à l'heure, Robin Beaumont nous rappelait que le premier parti politique chiite, expressément chiite, est né dans les années 50 du côté de l'Irak. Moi, il y a plusieurs choses qui me frappent. C'est d'abord, il y a quand même un certain retard vis-à-vis de l'islam politique sunnite. On a beaucoup parlé ces dernières années des frères musulmans, qui est une organisation qui est née dans les années 1920. Et donc, on a au moins par rapport à cette organisation-là, au moins 30 ans de retard, donc j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage, comment l'expliquer. Et puis il y a une autre chose, c'est que j'évoquais les Frères musulmans, c'est précisément une organisation transnationale, internationale. Alors est-ce qu'on a aussi du côté du chiisme une entité qui viserait au fond à chapeauter l'ensemble des mouvements chiites? Deux questions, on va commencer par la première, Laurence Louer.
Oui, alors comment expliquer ce retard? C'est une vraie bonne question, je suis pas sûre que j'ai une réponse très précise à ça. Peut-être que c'est lié au fond, l'émergence des mouvements islamistes chiites pourrait être liée à l'épuisement du pan-islamisme. C'est-à-dire cette grande période qui à mon sens commence à la fin du 19e siècle avec les grands penseurs, ce qu'on appelle réformistes musulmans comme Jamal el-Din el-Afrani, dont l'objectif est d'unifier tous les musulmans face à l'expansion impériale européenne et qui se fichent des différences doctrinales et qui disent l'importance c'est l'unité politique des musulmans. Et cette période a été marquée par beaucoup d'activités pour tenter de rapprocher notamment sunnites et chiites. Et au fond, l'islamisme chiite naît dans ce contexte irakien très particulier, au moment de l'avènement d'un régime républicain qui, au fond, va confirmer la position marginale des chiites en Irak, dans le système politique irakien. Et peut-être aussi qu'au fond, ce retard est lié à la réalisation progressive qu'il fallait, une version chiite de l'islam politique pour, représenter, sur le plan communautaire, en particulier, les chiites.
Sur l'existence ou non d'une entité transnationale chiite?
Il n'y en a pas dans l'islam sunnite. Il n'y en a pas dans l'islam chiite.
Les frères musulmans.
Mais en fait, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que son effectivité, elle existe, elle est dominée par les Égyptiens, son effectivité dans l'unification des différents courants des frères musulmans, dans l'arbitrage même des conflits qui peuvent arriver, en fait elle est nulle. Et dans l'islam chiite, il n'y a même pas d'organisation.
Il n'y a même pas de coquille vide.
Non, puisque de toute façon l'islam chiite est assez fragmenté quand même.
Oui, Robin Beaumont. Sur cette question du retard, pour la nuancer un tout petit peu, effectivement, c'est dans les années 50 que se cristallise la première forme partisane de l'islam politique chiite, mais il y a des prémices qui remontent à plus loin. Et à peu près au même moment qu'on observe les mêmes tendances dans les mondes sunnites. À la fin du 19e siècle, au tournant des 19e et 20e siècles, on observe une politisation, une implication de plus en plus forte des clercs dans la pratique politique. Vous avez fait il y a quelque temps une très belle émission sur le chiisme précisément, où on rappelait le fameux épisode de la fatwa du tabac. Et un autre, ce qui est un moment un petit peu important dans cette histoire-là, de la politisation du clergé, il y a un autre moment qui est très important et qui est concomitant avec à peu près la formation des frères musulmans, qui est le djihad de 1920 en Irak, c'est-à-dire l'appel par les grands clercs, les plus hauts clercs chiites à prendre les armes contre l'occupant britannique et qui est suivi après l'occupation britannique de l'expulsion de la plupart des clercs les plus activistes dans cette histoire qui vont se taire jusque dans les années 50. Donc ça c'est un élément particulièrement explicatif de ce retard.
Laurence Louer, vous voulez réagir sur ce point?
Ce qui est intéressant en effet, c'est que peut-être aussi en effet qu'une des explications serait que les clercs chiites, ils ont toujours été politisés. Oui. Ils ont toujours été des acteurs politiques. Et donc, au fond, peut-être que c'est relativement tardivement que déjà l'idée qu'il fallait plus que ça, qu'il fallait une organisation politique moderne, cette idée a finalement émergé assez tardivement parce que le besoin était peut-être moins important. Et cette idée a fait débat d'ailleurs.
Politiser, il faut peut-être s'arrêter un instant là-dessus parce que il faut expliquer aux auditeurs ce que signifie ce qu'il y a derrière cette politisation. Si on prend par exemple Al-Sistani, qui est quand même le clerc le plus important du côté de l'Irak, alors oui, évidemment, il a un poids politique, mais il n'a pas de parti, il participe pas aux élections. Donc il est dans le jeu politique, mais sans l'être complètement, en réalité, Laurence Loyer.
Il n'a pas besoin de parti, et s'il en avait un, il rentrerait dans la politique partisane, ce qu'il ne veut pas faire, parce que la politique partisane salit la réputation.
Il est au-dessus de la mêlée.
Il est au-dessus, c'est ça qu'il veut être.
Robin, je suis content de la formulation de cette question, parce qu'on a plutôt l'habitude, nous, d'entendre une opposition entre un modèle iranien activiste du clergé et un modèle irakien quiétiste. Ce qui est un paradigme qu'il faut nuancer parce qu'effectivement, Sistani, la marjaria irakienne, les plus hautes autorités chiites cléricales irakiennes, font de la politique. Sistani fait tout le temps de la politique. Simplement, il en fait de façon différente que par la forme d'un parti. C'est quoi la pratique politique de Sistani depuis 2003, c'est-à-dire depuis le moment où la ressource chiite devient la ressource majoritaire, voire hégémonique du champ politique chiite, c'est des interventions très ponctuelles, généralement dans des moments critiques pour la vie politique de l'Irak. C'est lui, par exemple, qui a essayé de contraindre l'occupation américaine à revoir son calendrier de transition politique. C'est lui qui va dire, quand l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki brigue un troisième mandat, c'est lui qui va laisser entendre qu'il ne faut pas briguer de troisième mandat. C'est lui qui va un petit peu forcer la main, qui va signifier aux députés irakiens qu'à un moment, on est en mai, ça serait bien de voter le budget de l'année en cours. Et c'est lui qui appelle les Irakiens à se mobiliser et à prendre les armes contre l'État islamique, ou ce qui va devenir quelques semaines plus tard l'État islamique en 2014.
C'était en 2014.
Les citoyens qui peuvent porter les armes et combattre les terroristes pour défendre leur pays, leur peuple et leur lieu saint doivent se porter volontaires et s'enrôler dans les forces de sécurité pour mener cet objectif sacré. Nous sommes la jeunesse de Kerbala et nous allons lutter contre les djihadistes. Pour défendre notre patrie et notre territoire, le deuxième ne peut pas nous menacer, nous sacrifierons nos vies pour la terre d'Irak.
Voilà, ce qui est très intéressant, donc on est donc là en juin 2014, il y a cet appel d'Al-Sistani à aller combattre Daesh, sauf que à ceci près que c'est pas Al-Sistani qui prend la parole, c'est un représentant à lui. Ça dit beaucoup de ce qu'on disait, c'est-à-dire on fait évidemment de la politique, mais en se plaçant au-dessus de la mêlée. Laurence Loyer, regardons un petit peu ce qu'il se passe du côté de l'Irak avec des manifestations qui durent depuis des mois maintenant, depuis le 1er octobre. Des manifestants descendent dans la rue pour dénoncer la corruption, pour dénoncer l'incurie de leurs dirigeants, mais ce mouvement a quelque chose de particulier parce qu'il semble dépasser les clivages confessionnels qui ont fait tant de mal à l'Irak. Il semble qu'aujourd'hui, il y a aussi des chiites qui descendent dans la rue pour dénoncer le pouvoir de Bagdad dominé par des chiites. Est-ce qu'on a quelque chose là d'inédit ? Et qu'est-ce qu'il pourrait produire ? C'est-à-dire que je vais arriver avec une question extrêmement brutale. Est-ce qu'on pourrait attendre de tout cela quelque chose de l'ordre d'une déconfessionnalisation du pouvoir irakien, Laurence Loyer ?
Alors, c'est pas inédit si on regarde un petit peu sur la longue durée des mouvements. Le Moyen-Orient n'a pas toujours été structuré en mouvements politiques qui avancent en silo, si vous voulez, les sunnites, les chiites, les chrétiens, et que sais-je. Il y a toujours eu des mouvements, des thématiques qui ont été capables d'unifier les gens par-delà leurs identités religieuses. Je pense pas qu'en effet c'est particulièrement inédit. Arriver jusqu'à un mouvement total de déconfessionnalisation au sens où ces identités n'auraient plus d'importance politique, ça me semble être, j'allais dire optimiste, mais enfin c'est pas forcément en soi une mauvaise chose, hein, ça me semble être exagéré.
C'est ce que demande en tout cas une partie des manifestants. Robin Beaumont, sur cette question-là, on pourrait l'inverser et se demander jusqu'à quel point est-ce qu'aujourd'hui ce pouvoir est un pouvoir chiite ? Est-ce que véritablement il a été totalement chiisé ? Alors si on regarde un peu le gouvernement, il semble que bien sûr il est dominé par des mouvements chiites, et d'ailleurs le nouveau Premier ministre Mohamed Alaoui, qui est en place depuis le 1er février 2020, a été désigné par des partis qui sont des partis chiites. Mais jusqu'où est-ce que réellement ce pouvoir est chiite ? On a l'habitude de dire à Bagdad le pouvoir est chiite. Est-ce que c'est si simple que ça ?
Les acteurs dominants, voire hégémoniques, sont des acteurs chiites. Après, qu'est-ce qui reste du schisme politique dans l'idéologie et dans la pratique politique de ces acteurs ? Effectivement, c'est une bonne question. Sans doute pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez un petit peu l'histoire des islams politiques de manière générale, généralement ce sont des mouvements oppositionnels, Et quand ils arrivent au pouvoir, soit ils le partagent avec d'autres acteurs qui issus d'autres tendances, d'autres traditions idéologiques, soit ils arrivent au pouvoir, comme en Iran, de façon hégémonique et unitaire. L'Irak, à mon sens, à ma connaissance, c'est le seul exemple historique de partis islamistes, non seulement islamistes chiites, mais en fait islamistes tout court, qui arrivent au pouvoir, qui dominent le champ politique, mais qui doivent se le partager. C'est-à-dire qu'on n'a pas un monopole islamiste, on a un oligopole de partis islamistes qui, à partir de 2003 ou disons 2005, tiennent le champ politique, enfin le champ de l'État en Irak, hors Kurdistan évidemment. Et du coup, c'est intéressant parce que ça nous donne une configuration où, pour la première fois, des partis islamistes se trouvent en concurrence les uns avec les autres et pas avec des partis issus d'autres idéologies. Et du coup, qu'est-ce qu'on mobilise comme ressources quand son concurrent en fait est issu de la même matrice politique? Alors on peut pas trop mobiliser la dimension révolutionnaire du chiisme parce que de fait on est au pouvoir, donc ça devient un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut pas non plus mobiliser la dimension morale du chiisme, c'est-à-dire purement religieuse, d'abord parce que les autres sont aussi chiites, mais aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle la marge aria, qui est en fait la banque de la ressource chiite. Donc on peut pas, comme dans le sunnisme, on n'a pas la main sur la ressource religieuse ou la ressource morale. Donc la compétition politique va pas se faire sur le mode du « je suis plus chiite, je suis plus moral, je suis plus religieux que toi » parce qu'il y a un Sistani à côté qui dit « bah non, c'est moi qui donne les bons et les mauvais points ». Qu'est-ce qui reste du coup? Il reste la violence et il reste les ressources d'État, c'est-à-dire les ressources, les ministères, l'argent, etc. Et du coup, cet oligopole politique chiite en Irak depuis 2005 ou 2003, si vous voulez, bah, il se concentre beaucoup moins sur de la production idéologique, sur la distinction vis-à-vis les uns des autres de façon idéologique, que sur la perpétuation de ses propres intérêts.
Il y a une chose qui reste quand même, Laurence Louer, c'est la mise à distance ou pas de l'Iran. C'est-à-dire que un élément qui permet de se distinguer, c'est le rejet, ou au contraire, l'adhésion totale au pouvoir de Téhéran. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est effectivement utilisé par les différents mouvements? Parce que Robin Beaumont le rappelait, effectivement, il y a aujourd'hui plusieurs grands mouvements, mais si on regarde là les principaux mouvements qui ont permis la désignation de ce nouveau Premier ministre, on a d'un côté la coalition Seroun de Mokhtar al-Sadr, dont il faudra parler, et puis de l'autre côté l'alliance Al-Fatah. Il faudrait peut-être comprendre, au fond, la nuance idéologique, politique entre ces deux-là. Est-ce que ça se joue pas précisément dans cette mise à distance de Téhéran?
Alors, je pense que la mise à distance de Téhéran, la question du rapport à l'Iran, du rapport à la Wilayat al-Faqih en tant que système politique, c'est un débat qui a été très intense à partir des années 90, qui s'est intensifié dans les années 2000, pour des tas de raisons, parce que, au fond, la dynamique révolutionnaire iranienne s'est épuisée. Ça avait relâché la pression et les liens qui avaient pu exister dans les années 80 entre l'Iran en tant qu'État et certains mouvements politiques chiites révolutionnaires qui se sont autonomisés, auxquels on a demandé d'ailleurs de s'autonomiser, puisqu'il n'était plus question d'exporter la révolution, ou en tout cas pas partout, pas là où ça risquait de poser des problèmes, pas Bahreïn, pas l'Arabie Saoudite. Et donc ces mouvements ont dû se réinventer, dire quel est notre projet. Donc projet, un projet communautaire, défendre les intérêts des chiites dans tel pays donné. Le fait qu'en Iran, au fond, l'arrivée au pouvoir des modérés, des réformateurs, a aussi permis une certaine expression du débat public. Et donc, au fond, dans les années 90-2000, il y avait des acteurs chiites qui disaient très clairement « Nous, on n'est pas pour la Wilayat al-Faqih. Nous, ce débat-là, ça nous intéresse pas. On estime que ça a été un échec. On estime que c'est une forme d'autoritarisme. » C'était très présent dans le Golfe. De nos jours, je pense que sans doute...
Mais est-ce qu'on dit, j'entends la mise à distance de cette doctrine, mais ce n'est qu'une doctrine. Qu'en est-il de la mise à distance du pouvoir de Téhéran? Est-ce qu'on dit aujourd'hui chez les chiites irakiens, nous rejetons l'influence, le poids de Téhéran?
Alors, je crois qu'il y a deux choses. Ouais. Il y a les islamistes chiites, quelle est leur position par rapport à la doctrine et par rapport à l'Iran? Ça marche ensemble. Quand on dit on n'est pas pour la Wilayat al-Faqih, c'est-à-dire on ne veut pas que l'Iran se mêle de nos affaires, on ne veut pas de mainmise de l'Iran, on ne veut pas passer aux yeux de nos gouvernements saoudiens, bahreïniens, koweïtiens, pour des pro-iraniens et des agents de l'influence iranienne. Ce qui est le problème de tous les chiites en général, d'ailleurs, depuis que l'Iran est religion d'État en Iran. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la question national et nationaliste. Je pense que c'est un enjeu fort en Irak et on le voyait dès les premières années qui ont suivi la chute du régime de Saddam Hussein et donc cette montée en puissance des mouvements islamistes chiites. Chez les Irakiens, l'idée que le chiisme irakien, il est spécifique. On ne veut pas qu'il soit dominé par l'Iran, on ne veut pas que l'Iran vienne se mêler de nos affaires, restructurer notre organisation, contrôler la marjaïa, contrôler des tas de choses. Et ce sentiment, il était là, il s'exprimait déjà, peut-être pas publiquement, mais dans les entretiens qu'on pouvait avoir avec les uns et les autres, c'était quand même très fort. Et une inquiétude était clairement exprimée. Et je pense qu'au tout début de l'intervention américaine en 2003 en Irak, Muqtada Sadr en particulier était parmi les gens qui portaient cette idée, on est des Irakiens, on est des Arabes. Et toi, Sistani, d'ailleurs, t'es iranien, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois dégager de l'Irak, outre le fait que t'as pas soutenu mon père quand il avait des problèmes avec Saddam Hussein. Donc déjà, cette dimension de attention, voilà, on n'est pas des Iraniens et on veut pas de mainmise, même si on veut bien coopérer, collaborer. Mais il sera mon dernier mot, à partir du moment où l'Iran monte comme ça en tant que puissance politique, en tant que puissance militaire, étend ses réseaux d'influence, ce discours-là, il est de plus en plus difficile à articuler. Surtout dans le cas irakien.
Je rappelle que donc Muqtada al-Sadr, fils de Mohammad Sadiq al-Sadr, qui était évidemment déjà un chef religieux chiite et qui a été assassiné en 1999 parce qu'il commençait à représenter une petite menace pour Saddam Hussein. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est intéressant, Robin Beaumont, parce que ce qu'on entend là, à travers cette figure de Muqtada al-Sadr, c'est que c'est le grand retour au fond du nationalisme irakien par le truchement du schisme politique, précisément. Alors que ça fait des années qu'on dit, au fond, l'unité irakienne s'est terminée, la nation irakienne n'existe plus. Muqtada al-Sadr, précisément, incarne ce nationalisme irakien qui fait son grand retour.
Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord.
Alors, très bien.
Sur cette question de cette polarisation du champ politique chiite irakien, ou cette lecture du champ politique chiite irakien comme polarisé entre, disons, pro-iranien et nationaliste irakien, elle existe depuis des années. Elle a été particulièrement visible depuis janvier dernier et l'assassinat de Qassem Soleimani et d'Abu Mahdi al-Mohandes. Et donc on aurait effectivement deux pôles, un pôle milicien pro-iranien financé, entraîné par Téhéran, et un pôle nationaliste irakien incarné prioritairement par Muqtada al-Sadr.
C'est pas le cas.
Alors pour moi cette lecture, elle me pose problème. Alors elle me pose problème parce qu'en fait, Muqtada al-Sadr, il a une relation à l'Iran qui est aussi une relation de clientéliste, Et de la même manière, quand vous allez du côté de ces milices, de ces groupes politiques armés considérés comme particulièrement proches de Téhéran, vous constatez que eux aussi, même les plus réputés proches de Téhéran, mobilisent une rhétorique nationaliste, tato-nationaliste irakienne. En fait, pour moi, je dirais que
vous parlez en l'occurrence des Al-Shabi, qui était ce groupe.
Rachid Charbi, qui est
ce groupe qui a été formé au moment où on a appelé les Irakiens à s'élever contre Daesh.
Ouais, enfin, d'une partie, parce que cette ligne, elle pourrait aussi bien traverser le Rachid Charbi lui-même. Mais, en réalité, pour moi, je pense que essayer de faire un gradient de nationalisme ou d'irakisme ou d'iranisme chez les partis politiques chiites irakiens, ça ne marche pas très bien. Parce que tout le monde mobilise ces références-là. En réalité, moi, je pense que de la même manière, la relation à l'Iran et le nationalisme irakien sont pour tous ces partis politiques des ressources. Des ressources qui mobilisent, selon des degrés divers, parce que, de toute façon, tout le monde a besoin de l'argent, du parrainage, des soutiens politiques iraniens. Aussi parce qu'un très grand nombre de ces acteurs politiques chiites irakiens ont très longtemps vécu en exil en Iran, donc ont des relations interpersonnelles avec l'Iran compte pour eux, et ont aussi besoin de mobiliser la référence nationale ou nationaliste irakienne, parce qu'en réalité, ils ont très très bien compris, et très tôt, qu'en Irak, on ne gagne pas une élection en disant « Willet al-Fakhri ». Et quand vous prenez un parti comme, alors on reprend toujours le même exemple, mais comme le Conseil suprême islamique irakien, qui est un parti issu d'une scission avec Darwa dans les années 80 en exil en Iran précisément, considéré comme très proche de Téhéran. Dès 2007, ce parti change son nom, il y avait le mot révolutionnaire dans son nom, il le change, et il change de marjaïa, son marja de référence n'est plus Khamenei, mais Sistani, donc il s'irakise. Donc on observe des processus d'irakisation de la même manière qu'on observe des processus d'allégeance à l'Iran, plus ou moins fort évidemment, dans dans toute cette classe politique en réalité, parce que le nationalisme irakien, comme la relation à l'Iran, sont pour eux des ressources qu'ils mobilisent pour défendre la seule chose qui les intéresse en réalité, qui est leur propre intérêt politique.
D'accord, Laurence Lohrer, avec cette idée d'une irakisation progressive du paysage, du champ politique irakien, quel qu'il soit d'ailleurs, y compris à l'intérieur du schisme politique dont on parle ce matin.
Oui, et je pense que ce qui est en effet important, c'est cette idée de l'Iran comme ressource. Et l'Iran, c'est des ressources logistiques, économiques, en armes, etc., dont on a besoin plus ou moins en fonction des contextes. Et l'Iran lui-même mobilise plus ou moins de ressources en fonction des contextes, en fonction de son agenda politique. Années 90, années 2000, son objectif n'est plus d'exporter la révolution, donc il ne va plus financer des mouvements révolutionnaires tous azimuts. Voilà, ces mouvements eux-mêmes, donc se nationalisent, c'est-à-dire revoient leur agenda, etc. Depuis, on va dire, progressivement, bon, la chute de Saddam Hussein dans les années 2000, mais sans doute 2011, le conflit syrien, l'émergence de Daesh, le conflit au Yémen, la politique étrangère iranienne mobilise de plus en plus de ressources pour étendre ses réseaux d'influence dans les pays voisins, là où c'est possible, là où il y a des conflits. Donc les ressources proposées, elles sont plus importantes. Parce qu'on est dans ce contexte de guerre, parce qu'on est dans ce contexte d'expansion, des réseaux iraniens. Et dans ce cadre-là, la compétition, elle s'intensifie hein, pour avoir accès à ces ressources. Et c'est en effet pas forcément lié à l'idéologie. En effet, c'est lié à l'intérêt, c'est lié aux besoins qui s'expriment à un moment donné. Et même si on est Muqtada Sadr, en effet, ce rapprochement a eu lieu avec l'Iran hein, au cours des années 2000, parce que il s'est aperçu que dans le contexte spécifique de l'Irak, ben on pouvait pas se passer du soutien iranien. On pouvait pas continuer à dire. J'aime pas les Iraniens, je suis arabe, je suis irakien, je suis... Non. Voilà, c'est le contexte, en fait, qui détermine les choses.
Robin Beaumont, vous vouliez réagir. Et oui. Puis ensuite, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu de perspective historique pour revenir précisément à Saddam Hussein, à la fois pour comprendre ce qu'il y avait d'influence du chiisme politique à l'époque de Saddam Hussein et ce qui va se passer au moment où il va perdre le pouvoir. Robin Beaumont.
Oui, simplement pour revenir un tout petit peu sur Muqtada Sadr et pour aller du coup dans votre sens, ce qu'il faut comprendre, c'est que traditionnellement, le schisme politique, ce schisme politique qui est né dans les années 50, etc., il est porté par des grands clercs. Ce qui est une vraie différence dans la sociologie de ces élites qui inventent l'islam politique avec les formes d'islam politique sunnite, qui sont inventées, créées, pensées, théorisées par les Hassan al-Banna et cette groupe, c'est-à-dire pas des grands clercs, mais des gens qui sont à la périphérie du champ religieux, voire qui lui sont extérieurs. Dans le chiisme, pour plein de raisons sur lesquelles on peut revenir ou pas, ce sont des personnages centraux de l'institution cléricale, qui, parce que historiquement, elle a réussi à conserver le monopole de la légitimité religieuse et donc de la légitimation politique, qui invente le schisme politique. À partir de 2000, donc une vraie asymétrie. À partir de 2003, c'est ce que je trouve absolument fascinant, c'est le mouvement inverse qu'on observe. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas un Sistani qui fait le schisme politique. Sistani, il est de plus en plus réduit dans son expression politique, parce que quand on garde une position surplombante, c'est pratique parce qu'on est le père de la nation, mais en même temps, ça permet à tous les autres de vous court-circuiter en fait.
Qui est l'ayatollah irakien, je rappelle.
Oui, pardon.
Hein, qui est donc le plus haut clerc chiite en Irak.
Exactement.
Il est
né en Iran, mais
oui.
Sistan, c'est une ville en Iran, mais il incarne ce nationalisme irakien, effectivement.
Vous avez raison.
Mais sa carte d'identité, elle est iranienne.
Mais elle est iranienne, effectivement. Et par ailleurs, on dit que l'une des raisons pour lesquelles il ne s'exprime pas lui-même en public, c'est qu'il laisserait entendre un fort accent iranien. Mais pour revenir à Muqtada Sadr, donc cette asymétrie, ce fait que ce soit les grands clercs qui ont inventé le schisme politique, elle, ça change en fait en 2003. Aujourd'hui, les acteurs qui portent le schisme politique, c'est les Muqtada Sadr, c'est les Akram Karbi, c'est les chefs de milice, c'est tous les anciens disciples du père de Muqtada qui aujourd'hui sont en concurrence avec Muqtada, c'est-à-dire c'est des clercs de deuxième, troisième, quatrième, cinquième rang. C'est très intéressant de constater qu'aujourd'hui, c'est précisément ces acteurs à la périphérie du champ religieux qui sont en train de réinventer le schisme politique et du coup, qui sont obligés de compenser leur manque de crédit religieux, parce qu'ils ne sont pas Sistani et ils ne peuvent pas le devenir, même s'ils ont essayé, ils ont compris que ça ne fonctionnait pas, en mobilisant d'autres formes de ressources. Et le nationalisme est une, ou le capital d'autochtonie, c'est-à-dire dire « moi je suis là, vous quand vous étiez en exil à Téhéran, à Londres, au Canada, moi j'étais en résidence surveillée sous Saddam Hussein et mon père était martyr, etc. »
Mais est-ce que justement, le fait d'avoir été traité un peu à la marge, à la fois sur le plan religieux, mais aussi sur le plan politique, ça ne lui donne pas aujourd'hui une certaine force? Et est-ce que ça ne pourrait pas lui permettre, au fond, de sortir un peu le grand vainqueur de la crise sociale et politique qui aujourd'hui secoue l'Irak,
En fait, il a joué, si on parle de Murtada Sadr, toujours lui, hein, il a joué de sa marginalité. Parce que sa base sociale était des jeunes marginaux des quartiers périphériques de Bagdad. C'était quelqu'un qui était moqué, méprisé par les grandes élites de Najaf, donc la ville où résident les plus grandes autorités religieuses chiites d'Irak et puis du monde d'ailleurs. Hein, donc on disait que c'était un espèce de trublion complètement idiot, inculte. Ouais,
ça tombe très bien, voilà. Puisqu'aujourd'hui il y a un grand mouvement de dénonciation du système en place.
Tout à fait. Donc Murtada Sadr est issu en même temps d'une très grande famille de clercs chiites, très prestigieuse, qui a donné plusieurs grands idéologues ou bien activistes politiques chiites en Irak, au Liban et même en Iran. Et en même temps, il incarne une forme de mouvement anti-establishment, anti-élite. Et son succès, en fait, c'est peut-être d'être
entre les deux.
Quel avenir politique vous lui voyez, Robin Beaumont?
Alors là, je vais vous sortir le joker du chercheur qui dit « moi, je fais pas de prédiction, j'essaie simplement d'expliquer ce que je vois au présent.
Est-ce qu'il a des ambitions politiques ?
Oui, il a évidemment des ambitions politiques. La grande force de Murtada Sadr, mais ça, on retrouve ça partout. C'est sans doute une des composantes de notre modernité politique mondiale. C'est sa grande force, c'est de pouvoir dire « je suis hors du système » alors qu'il est dans le système depuis le départ. Sa participation au jeu politique, au Parlement, et ça, elle date pas d'il y a 2 ans.
Il y a plein de personnalités politiques à qui ça a réussi, ça. Hein,
mais complètement. Et de fait, ça lui a réussi il y a encore 2 ans aux dernières élections, alors que lui-même ne se présente jamais. Mais parvient à tenir des ministères, à faire élire des parlementaires et à territorialiser son pouvoir politique.
Ouais. Laurence Loire.
Mais alors. Il y a d'une part, il y a la figure de Murtada Sadr, et puis pour revenir à ce que disait Romain Beaumont, le fait que ce soit aujourd'hui des acteurs qui sont à la marge de ce système élitiste de la Marjaïa, qui est composé de grandes familles de clercs, où on est clerc de père en fils sur plusieurs générations, et en général on descend du prophète, eh bien c'est aussi interne à la dynamique de l'islam politique chiite elle-même, qui a provoqué, généré un renouvellement de la classe cléricale avec l'arrivée au métier de clerc, et bien de gens qui venaient pas précisément de ces familles cléricales ou avec une tradition sur plusieurs générations, qui venaient de classes sociales plutôt défavorisées. Et puis il y avait aussi, il y a toujours moi dans le contexte du Golfe, le contexte irakien aussi, on appelle les effendis, c'est-à-dire ces cadres laïcs, c'est-à-dire non cléricaux des mouvements politique chiite, qui pouvait avoir un discours extrêmement anticlérical. Hein, dès le départ, dès les années 80, une sorte de défiance vis-à-vis justement de ces élites cléricales. Et ça a été, je pense, un débat au sein du parti Al-Darwa dès le départ. Qui doit décider et comment s'exerce l'autorité politique au sein du parti?
Toute dernière question, Robin Beaumont, avant d'accueillir Kinda Shaib, on va parler du Liban dans un très court instant, mais vous disiez que les chercheurs n'aimaient pas beaucoup parler du futur. Je vais vous faire parler du passé, alors du coup. Il y a quand même quelque chose qu'on peut voir, un pari raté pour le coup, c'est celui de miser sur le schisme politique des Américains. Ça n'a pas fonctionné. Ils considéraient que c'était ce qu'il fallait faire pour opérer leur grand projet de transformation du Moyen-Orient. C'est un échec.
Oui, alors, je vais vous sortir le second joker qui consiste à dire je ne suis pas spécialiste de la politique.
Après, vous en avez plus. Hein.
Mais de fait, il y a eu un mauvais calcul américain absolument considérable qui n'a pas du tout compris qu'il n'allait pas créer un contre-pouvoir à l'Iran révolutionnaire. Ça, c'est évident. J'ajoute simplement, parce que je m'en veux de ne pas l'avoir dit, c'est que pour revenir à ce dont on parlait juste à l'instant, ce positionnement anti-système, mais dans le système de Murtada Sadr, il ne fait pas illusion auprès des manifestants irakiens aujourd'hui. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles il oscille entre participation aux manifestants et participation à la répression féroce contre les manifestations qu'on observe depuis des mois aujourd'hui en Irak, c'est précisément qu'il voit bien que les mots d'ordre des manifestants l'incluent à ce système politique qu'il critique.
En tout cas pour certains. On est avec vous, Robin Beaumont, et vous, Laurence Loire, dans cette série consacrée à la foi politique et au pouvoir religieux aujourd'hui, de Bagdad à Beyrouth, le schisme politique. On va prendre la direction justement de Beyrouth.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ces deux jours illustrent le fait que, quoi qu'il arrive dans le monde, nous ne devons jamais renoncer. Nous devons seulement nous incliner devant la vérité qui est liée à Dieu. C'est quelque chose que les plus anciens nous ont enseigné sur la dignité et le fait de résister contre l'oppression et l'injustice. Les ennemis de l'étranger ont décidé d'éliminer l'islam. Or, notre régime est fondé sur les principes de cette religion. Donc l'impérialisme est un aspect très parlant de cette oppression mondiale. Nous devons nous élever contre cela.
Voilà, c'est pas le bon Bob qu'on vient d'entendre, le bon extrait sonore. C'est pas très grave. On avait prévu un petit extrait sonore sur l'Ashura, le jour de l'Ashura, qui est pour les chiites le jour de la commémoration du massacre de l'imam Hossein et de sa famille du côté de Karbala en Irak. On va parler tout de suite du culte des martyrs du côté du Liban, parce que dans l'imaginaire chiite, il est très marqué donc par ce mythe de l'imam Hussein. Le culte des martyrs est central. On va retrouver tout de suite Kinda Shaib. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne et chercheuse post-doc au Centre de Recherche de Sciences Po Aix. Vous avez consacré une thèse sur la question du martyr au Liban. Vous avez suivi un certain nombre d'enterrements et de commémorations sur place. Avant de parler justement de ce culte des martyrs du côté du Liban, un tout petit peu d'histoire, parce que vous expliquez que pendant longtemps, Kinda Shaib, les commémorations de l'assassinat de l'imam Hussein portaient une connotation très essentiellement victimaire, et puis finalement, la chose va être réinterprétée pour devenir au fond un épisode beaucoup plus glorieux. Quand se fait ce basculement et pour quelles raisons?
Alors ça, c'est le travail des réformistes chiites, donc qui étaient essentiellement en Irak et en Iran. De justement réinterprétation pardon de la version victimaire de Hussein mort sous les coups de l'armée de Yazid, en finalement inversant le paradigme et en partant du principe que Hussein n'était plus une victime, mais était finalement savait parfaitement ce qui allait lui arriver, donc quelque chose de très actif. En sachant, enfin, d'après l'histoire telle qu'elle est racontée chez les chiites, en affirmant que Hussein savait qu'il allait mourir, mais qu'en faisant ça, il permettait à la religion telle que prêchée par son grand-père de perdurer. Mmh. Donc ça, c'est tout le mouvement qui précède justement la montée d'un chiisme politique. Mmh. Dont il a été question depuis le début de l'émission. Mmh.
Alors, ce culte des martyrs, il y a d'abord eu évidemment les combattants tombés contre l'occupation israélienne, et puis plus récemment, ceux tombés dans les combats du côté de la Syrie. On va faire un tout petit peu d'iconographie, Kinda Shaib, si vous le voulez bien, parce que souvent, on voit sur ces portraits donc des jeunes hommes qui portent des uniformes, d'ailleurs uniformes qu'ils ne portaient pas forcément, parce qu'ils n'étaient pas toujours engagés dans des armées régulières, avec des fleurs, avec des images en arrière-plan, des slogans, des couleurs un peu particulières. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, à décrypter un peu cette iconographie du martyr?
Alors, oui. L'uniforme, en fait, les milices peuvent avoir des mmh. uniformes eux aussi. Le fait que les combattants, en tout cas de la période avant la guerre de 2006, donc de la période de l'occupation israélienne, en fait, quand les portraits ont été conçus par les centres graphiques du Hezbollah, le fait est que comme on était dans une logique de clandestinité, les combattants, c'était essentiellement leur photo d'identité qui avait été remise par la famille, qui était utilisée pour construire le portrait. Donc partant de là, on a des photos très standards, auxquelles on ajoute, par le biais de Photoshop, un uniforme lui aussi standardisé.
Donc ça veut dire, Kinda Shaib, que quand ces combattants meurent et qu'il y a ces grandes commémorations, ces grands cortèges, en réalité, les familles et l'entourage découvrent leur engagement militaire?
Alors, avant 2000, pendant la période de l'occupation, d'une certaine façon, oui, mais on peut parler de cercle de connaissances. La famille pouvait tout à fait être au courant, des rumeurs circulaient, etc. Mais par contre, les gens un petit peu plus éloignés ne savaient généralement pas, puisque ces combattants avaient eux-mêmes une profession à côté, pouvaient avoir une boutique, etc. et partaient sur le front par période de quelques semaines. Et revenait et revenaient faire enfin leurs activités plus banales, on va dire.
Quels sont les endroits où on va placer justement ces grandes affiches de ces martyrs, et qu'est-ce que ça nous dit justement peut-être de la géographie des engagements contre justement Daesh du côté de la Syrie? Je crois que c'est essentiellement au sud du Liban hein, qu'il y a ces grandes affiches aujourd'hui.
Alors moi je travaille sur le sud du Liban, donc c'est très biaisé. On trouve la même chose dans les deux autres gros fiefs du Hezbollah, à savoir la plaine de la Beka à l'est et la banlieue sud de Beyrouth. Mais sur l'implantation des portraits, en fait, on a eu des politiques différentes au fil des années. Moi j'observe ça depuis le début des années 2000, et en gros au moment de la libération du Liban Sud en mai 2000, on a un affichage extrêmement massif de tous ces combattants quasiment sur... moi, l'impression, quand j'ai débarqué au Liban pour mes premiers terrains, c'était que chaque poteau électrique était ponctué de sa photo de martyr, en fait, comme une espèce de pellicule qui se déploie sur le territoire et qui se déploie sur l'intégralité du territoire à partir de l'aéroport de Beyrouth. À partir de 2003, il y a eu une politique de la part des centres de conception... Enfin, de la part du Hezbollah et appliquée par les centres de conception graphique de redéploiement des portraits sur des axes plus stratégiques, c'est-à-dire les grands axes routiers éventuellement, dans des zones chiites, et certains me disaient, pour ne pas gêner les gens qui ne sont pas avec nous, dans les villages d'origine des combattants, dans les lieux d'opérations un peu emblématiques, des grosses opérations militaires, etc. Après 2006, c'est un peu différent, la guerre de juillet 2006 entre le Hezbollah et Israël. C'est un peu différent. On a à nouveau des portraits qui s'ajoutent, qui là sont plus standardisés que les portraits pré-2000, puisqu'on n'est plus sur une occupation généralisée du territoire du Liban Sud. Et les nouveaux portraits s'affichent aux côtés des plus anciens. Et après la guerre en Syrie, enfin après la reconnaissance par le Hezbollah de sa participation à la guerre en Syrie, donc en 2013, les portraits de combattants morts sur le front syrien sont pour le coup moins affichés que les portraits précédents, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans les villages des combattants, dans certaines villes un peu emblématiques, et on voit essentiellement les combattants les leaders, en fait les chefs militaires peuvent être affichés sur des axes plus importants. Mais les combattants ordinaires le sont assez peu.
Oui, parce qu'il y a des martyrs, disons des figures un peu majeures qui, évidemment, prennent peut-être une place plus importante. Il y avait par exemple Djihad Mounier, dont les obsèques avaient rassemblé des milliers de personnes à Beyrouth. Là, on est sur des figures majeures et donc des commémorations très très importantes.
Oui, bien sûr.
Des martyrs de premier rang, on peut dire, d'une certaine manière.
Oui, on pourrait. On pourrait éventuellement.
Pour comprendre peut-être aussi, Kinda Shaib, l'importance de ce culte des martyrs, il faut aussi peut-être rappeler, parce que d'ici, on n'imagine pas toujours combien ces populations, et notamment sur la partie sud du Liban sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, ont été absolument terrorisées par les exactions commises par Daesh, notamment par exemple les attentats du 12 novembre 2015, la veille des attentats de Paris. Mais donc cet effroi qui a été ressenti à l'époque, il permet aussi peut-être de comprendre l'ampleur de ce soutien populaire vis-à-vis de ces combattants, et donc ce culte des martyrs très fort pour ces combattants parti en Syrie.
Oui, alors en fait, là, il y a ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'il y a eu les attentats de Beyrouth, et l'attentat du 12 novembre n'était qu'un des attentats qui se sont produits dans des zones, dans des régions chiites, essentiellement la banlieue sud, où effectivement, étant donné que le discours du Front Ennosra et des autres mouvements djihadistes était plutôt mort aux chiites, grosso modo, enfin pour caricaturer, le discours du Hezbollah était de ils vont venir nous étrangler, ils vont venir nous tuer, donc il faut partir de manière préventive, combattre en Syrie, avec en plus le discours sur la protection des lieux saints chiites que personne d'autre que les mouvements chiites n'iront défendre, donc notamment le mausolée de Zainab, la sœur de Hussein, qui se situe dans la banlieue de Damas. Donc les mausolées chiites qui font appel à quelque chose d'un peu émotionnel pour les chiites, qui justement vouent un respect énorme à la famille du prophète, plus la peur avec ces attentats et ces groupes qui sont ces groupes ou ces actions potentielles qui sont découvertes sur le territoire libanais. Donc la peur, en tout cas dans les campagnes, est assez monstrueuse. Et moi, j'ai pu observer un resserrement autour du Hezbollah et pas du tout un éloignement à ce moment-là. En tout cas, jusqu'en 2016-2017, c'était assez clair. Les populations chiites, même des gens qui étaient plutôt opposés au Hezbollah politiquement, prenaient tête et cause pour le parti libanais.
Même si aujourd'hui, Robin Beaumont, Laurence Louer, les choses sont un peu compliquées compte tenu de ces manifestations, parce que le Hezbollah est aussi en première ligne, précisément dans les manifestations qui agitent le pays depuis quelques semaines, Laurence Louer.
Le Hezbollah est mis en cause parce que c'est un acteur dominant, et donc il est considéré par ce mouvement qui est un mouvement anti-élite, hein, qui dénonce la corruption, la manière dont le pays est géré depuis des années. Le Hezbollah est mis dans le même sac que tous ces politiciens dont les manifestants considèrent qu'ils ont mené le pays à la ruine. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est un peu comme en Iran en fait. En Iran, il y a eu la révolution, et puis maintenant, le régime politique est mis en cause par la population lui-même.
Robin Beaumont, en guise de conclusion, j'avais prévu qu'on parle un peu plus du Liban, on n'a malheureusement pas eu le temps, mais un dernier mot, Robin Beaumont.
Oui, non, simplement que c'est intéressant parce que ce qui se passe au Liban fait évidemment à ce dont on parlait à l'instant en Irak. Et de ce point de vue, on peut remarquer que beaucoup des dynamiques politiques qui traversent le champ politique chiite en Irak, en fait, ont déjà un précédent, se sont déjà produites au Liban. Quand on regarde ce dont je vous parlais tout à l'heure sur la sociologie des élites des chiites politiques irakiens, cette dégradation, si vous voulez, des acteurs politiques chiites qui étaient des grands clercs qui le sont moins aujourd'hui. Aujourd'hui, un Nasrallah au Liban a déjà opéré cette transition-là vers un mouvement politique islamiste chiite qui n'est plus porté par un grand clerc.
Merci beaucoup à Kinda Shaib qui était à l'instant avec nous par téléphone. Et puis un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Laurence Louer d'avoir été avec nous. Je rappellerai vous concernant Sunnite et Chiite, histoire politique d'une discorde qui était parue au Seuil en 2017 notamment. Robin Beaumont, un grand merci également de nous avoir éclairé ce matin. Je rappellerai vous concernant Schisme politique, c'était le titre de cette revue des mondes musulmans et de la Méditerranée que vous aviez coordonnée.
Avec ma collègue Chiara Calabrese.
Et ben voilà. Merci infiniment. 11h53, minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian Delorme.
Alors cette semaine, Brice, vous nous avez successivement présenté trois œuvres de l'écrivain hongrois Sándor Márai. Le premier tome de son journal intime, qui couvre les années 1943-1948, une fiction consacrée à Gyula Krudi. Dernier jour à Budapest, une méditation sur la prise de pouvoir par les staliniens dans son pays, Mémoire de Hongrie. Ces trois ouvrages ont un point commun, la Seconde Guerre mondiale et ses suites immédiates. Aujourd'hui, vous nous en présentez un quatrième, un roman qui était demeuré inédit du vivant de Márai et publié aujourd'hui par Albin Michel.
Oui, dans les extraits de son journal que vous évoquiez, Sándor Márai décrivait les conditions de vie apocalyptiques des habitants de Budapest durant l'hiver 1944-45. Les Allemands et leurs supplétifs hongrois, les Croix Fléchées, avaient décidé de faire de la capitale hongroise une forteresse destinée à bloquer la progression de l'armée rouge. Márai, à ce moment, vivait en réalité caché dans la petite ville de Leánifalu. Sa femme étant juive, elle aurait risqué d'être déportée à Auschwitz ou assassinée lors des marches de la mort en direction de l'Autriche, au cours desquelles ont péri plusieurs dizaines de milliers de juifs hongrois. Mais aussi longtemps que cela fut possible, l'écrivain retournait dans la capitale pour s'assurer que leur appartement n'avait pas été bombardé. Tel fut cependant le cas, et Márai ne put sauver dans les décombres avec une brouette que quelques-uns des livres de son imposante bibliothèque. À la fin du cauchemar, encore sous le coup des témoignages qu'il avait recueillis dans Budapest en ruine, il écrivit donc un roman qui restitue cet épisode méconnu chez nous de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les leçons qu'il en tire valent pour toutes les situations de crise extrême, pour toutes les transitions d'un monde à l'autre, et il s'intitule « Libération ». Alors, l'essentiel de ce roman se déroule dans les caves, transformées en abri par les habitants de Budapest à la fin de la guerre. Ce qui reste de vie sociale s'y est réfugié, tandis qu'à la surface, la guerre fait rage et les combats se rapprochent. Après les bombardements aériens, les tirs d'artillerie qui ébranlent les immeubles provoquant des coupures d'électricité, vient le moment des affrontements directs entre les soldats des deux armées, d'immeuble à immeuble, à travers les caves dont les combattants percent les murs pour progresser ou se replier. Mais le danger pour ces civils déboussolés vient aussi des rafles auxquelles procèdent les nazis hongrois. Ces redoutables croix fléchées des gamins, en veste de cuir, armés de mitraillettes, jouissent de cet apocalypse qui correspond à leur propre nihilisme. Ils pillent les appartements, profitent des ultimes moments où peut s'exercer leur terreur pour traquer les juifs, les opposants, les intellectuels, les bourgeois, tous ceux qu'on peut soupçonner de préférer les soviétiques aux nazis. Livrés à eux-mêmes, condamnés à une mort imminente, ils piétinent toutes les règles morales, s'enivrent du pouvoir que leur violence déchaînée exerce sur des adultes terrifiés, que ne protège plus aucun ordre social. C'est pourquoi, comme le montre Marail, presque tous les habitants de la cave attendent les soldats de l'armée rouge. Ils espèrent qu'ils se comporteront en libérateurs, tout en redoutant qu'ils ne se vengent sur la population civile hongroise. Et puis, les bolcheviks ont si mauvaise réputation dans la très catholique Hongrie. Tout le roman est construit autour de cette ambiguïté. Les personnages attendent l'arrivée des Russes, parce qu'elles mettraient fin à la bataille et qu'elles les débarrasseraient des Allemands, tout en la redoutant, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il faut en attendre. Comme une femme enceinte attend la délivrance, elle a attendu cet instant de tout son corps, écrit Marail de son héroïne. On est dans un temps suspendu entre deux ordres, entre deux normalités, dans un purgatoire dont on espère qu'il ne mène pas à un nouvel enfer. En attendant, dans la cave abri où l'on tente de survivre, la méfiance réciproque défait les liens sociaux traditionnels, les hiérarchies sociales s'effondrent à l'idée que les dominants d'hier pourraient bien se retrouver les dominés du nouveau système. Les personnages livrent leurs secrets à leurs voisines. Et on n'oubliera pas ce personnage de jeune femme juive, réchappée des camps où a péri toute sa famille. Je cite Marail. Elle parle de loin, même en cet instant, de façon impersonnelle comme les fous. Elle parle de l'autre rive, de celle où, une fois qu'on l'a abordée, tout ce que la vie peut encore réserver paraît banal. Elle a fait l'expérience des êtres humains dans leur vérité, lorsque plus rien ne les retient, ni loi, ni religion, ni règles. Elle a connu d'autres dangers, et plus rien de ce que les hommes peuvent encore inventer n'a d'importance pour elle. À la fin du roman, dans la cave, de soldats libérateurs violent froidement l'héroïne avant d'être lui-même abattu par un sniper. Ce roman s'appelle « Libération » et il est paru, comme l'ensemble de l'œuvre de Marail, chez Albin Michel, dans une traduction de Catherine Faye.
Merci beaucoup Brice de nous avoir fait découvrir, redécouvrir Marail. On peut retrouver l'ensemble de vos chroniques sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.